3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro. Que se passe-t-il lorsque le film de monstre prend les apparences de catastrophes ayant frappé notre société d'aujourd'hui dans la vie de tous les jours? D'un côté, on parle ici des attaques terroristes du 11 septembre 2001 et de l'autre, de la pandémie du COVID-19 que nous vivons actuellement. Voici donc la thématique de cette émission où je vais couvrir deux films dans lesquels les personnages principaux vont tout simplement faire face à des événements catastrophiques et la réaction du côté civil et gouvernemental lié à ces 10 événements. Avec Cloverfield et Shin Godzilla, il ne vous reste plus maintenant qu'à vous préparer à un spectacle de destruction massive où le film de monstre se transforme en drame catastrophe qui nous force à faire un parallèle avec notre vie de tous les jours dans ces périodes sombres de notre histoire.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat.
The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Men, there's a drive-in movie full of juicy people. Wow!
It's a trap! Help! It's Pick! We've had it, men.
A pleasant aroma for you, but not for mosquitoes. Pick is easy to use. Light it and forget it. Pick's aroma keeps mosquitoes, gnats, and sand flies away. Pick is the best protection for barbecues, fishing and camping trips, or just relaxing in the yard.
So if you don't want our company ever anywhere, just light Pick and see what I mean? Bye!
Pick is on sale at the refreshment stand now. And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Pour Rob, un petit mot avant son départ.
Rob, il est super, il va me manquer.
Amuse-toi bien chez les Japonais.
Tu sais que tu me dois encore ce dollar.
Comment tu vas survivre sans Rob? C'est ton pote de toujours.
Ah ouais, je sais. Hé, comment je vais survivre sans toi?
J'en sais rien, je suis ton pote de toujours.
C'était quoi, ce
bruit? On aurait dit un cri de bête.
Pas d'affolement, on reste calme.
Notre standard est débordé ici, à la rédaction de New York One, depuis qu'un rugissement puissant comme un coup de
tonnerre... Tu veux filmer ça de là-haut?
J'imagine la taille de cette affaire.
C'est du délire.
Il y a eu comme une surprise, ça s'est mis à tomber dans tous les coins.
Ouais, t'aurais mieux fait de te barrer plus tôt.
Laissez-moi!
vous allez passer une soirée d'enfer.
Le premier film aujourd'hui est Cloverfield, un drame de science-fiction produit par les studios Paramount Pictures qui est sorti en salle le 18 janvier 2008. Ce film américain, d'une durée de 85 minutes, a coûté plus de 25 millions de dollars à produire, mais a quand même ramassé plus de 172,4 millions au box-office international. Du côté de la réalisation, on peut compter sur le réalisateur américain Matt Reeves, à qui l'on doit les excellents Dawn of the Planet of the Apes et War of the Planet of the Apes. Du côté producteur, on a J.J. Abrams, à qui l'on doit Star Trek, la version 2009, ainsi que Star Wars épisode 7 et l'épisode 9, sans oublier la série télé Alias. Et pour finir, du côté de la scénarisation, nous avons Drew Goddard, qui nous avait donné l'excellent scénario du film The Martian et de la série télé de Netflix Daredevil, sans oublier également le film de Joss Whedon, Cabin in the Woods. Au niveau de la distribution, eh bien, nous avons Lizzie Kaplan, Jessica Lucas, TJ Miller, Michael Stahl David, Mike Vogel, Odette Justman et Jimmy Harlan. L'histoire suit un groupe de jeunes adultes new-yorkais qui tentent de survivre à l'attaque de la ville de New York par un monstre gigantesque provenant d'un endroit inconnu. L'idée originale de Cloverfield est venue à J.J. Abrams alors que lui et son fils étaient en visite au Japon et qu'ils se sont retrouvés dans un magasin de jouets où le jeune petit garçon a pu être intrigué et attiré par les différents jouets du monstre Godzilla. Face à ça, alors que J.J. Abrams est en train de faire la promotion de Mission Impossible 3, eh bien, lui est venu à ce moment-là en tête la question suivante. Aux États-Unis, on n'a pas vraiment de monstre américain. Il aurait peut-être fallu que quelqu'un lui parle de King Kong quelque part, mais lui, il trouve que King Kong était trop adorable. Il voulait faire quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et donc, c'est de là qu'est venu le produit de Cloverfield. À l'origine, Cloverfield devait être simplement le nom du dossier désigné à cet événement où est-ce que la créature s'attaquait à New York. L'idée était de partir avec Cloverfield et de changer de nom et pour arriver à un titre inconnu à la fin. Sauf que lorsqu'on a fait le premier trailer ou la première bande-annonce, les gens ont tellement accroché sur Cloverfield que finalement le réalisateur Matt Reeves a dit à J.J. Abrams qu'il désirait que le film garde le titre original de Cloverfield. Pour ceux qui seraient intéressés de savoir d'où vient le nom Cloverfield, bien, en réalité, il faut comprendre que les studios de J.J. Abrams, Bat Robot Production, eh bien, se situent sur le Cloverfield Boulevard à Santa Monica. Donc, c'est de là qu'on a puisé le titre original, Cloverfield. En février 2007, Paramount va donner le feu vert à J.J. Abrams pour la production de ce long-métrage et c'est à ce moment-là que Abrams va approcher Drew Goddard et Matt Reeves. Il est important de préciser que Cloverfield a été réalisé sur la même idéologie que The Blair Witch Project, ce qui veut dire qu'on filme à l'épaule et on a créé autour du projet une campagne pour essayer de faire croire aux gens à la crédibilité du film. Il y a une différence entre Blair Witch Project et Cloverfield, c'est que Blair Witch Project, ce sont trois jeunes qui sont allés dans une forêt chercher la légende d'une fameuse sorcière et qui vont mystérieusement disparaître et dont on va retrouver les films dont ils ont tourné durant leur enquête. Contrairement à Cloverfield, où là, on parle d'un monstre qui a détruit New York. Donc, on sait très bien dans les nouvelles qu'il n'y a pas eu de monstres qui ont détruit New York. Donc, ça enlève un petit peu l'idéologie de faire ce type de produit-là. Mais c'est quand même intéressant ce que Paramount ont fait parce qu'ils ont donné à chacun des acteurs qui interprétaient un rôle principal dans le film une page web personnelle qui leur permettait à ce moment-là de mettre des photos d'eux autres, de faire des blogs, mais toujours en rapport avec le personnage qu'ils interprétaient dans le film. Et donc, chacun des acteurs a dû arrêter de mettre de quoi sur la page la journée même où le film est sorti en salle, soit la journée du 18 janvier 2008. Dans la bande-annonce originale, tout comme dans le film, à un certain moment, on a la tête de la Statue de la Liberté qui va atterrir tout simplement dans le milieu de Manhattan. C'est un hommage qui a été rendu au film Escape from New York, pour ceux qui se rappellent de New York 1997. Quand vous regardiez le poster, vous aviez Snake Plissken qui s'en allait avec le président et en arrière, vous aviez la tête de la Statue de la Liberté qui se retrouvait sur le sol en plein milieu de Manhattan. L'acteur T.J. Miller, qui interprétait le personnage de Hud, celui qui a filmé la grande partie du film, bien, a réellement lui-même filmé les séquences du film, du moins plus que la moitié du long métrage, puisque les images qu'il a lui-même enregistrées à travers sa caméra ont été celles qui ont été utilisées au produit final. La raison pour laquelle le film ne dure que 80 minutes, si vous enlevez le générique d'introduction et le générique de la fin, c'est la durée maximale d'une cassette mini-DV que l'on peut utiliser dans ce type de caméra numérique. Donc, tout a été mis en œuvre pour essayer de garder une crédibilité, ce qui est quand même un point extrêmement positif, contrairement à d'autres types de films du genre qu'on a vu aller. Au total, la créature monstrueuse de Cloverfield ne va apparaître à l'écran que pendant 2 minutes 37 secondes. Du côté des points forts, eh bien, tout d'abord, c'est une belle réinvention des films de Godzilla et on va donner ce qui doit être donné à Matt Reeves. Au niveau de la mise en scène des effets spéciaux, il trouve une manière de nous donner des effets spéciaux extrêmement impressionnants, malgré le fait qu'on n'en voit pas beaucoup. Le scénario est quand même bien écrit parce qu'on va prendre le temps de bien mettre les choses en place et on comprend également la relation entre chacun des personnages, notamment également la relation entre Rob, qui est notre personnage principal, et son ami qui va devenir en cachette son ami de cœur, soit Beth. L'autre chose aussi qui était plaisante dans Cloverfield, c'est le fait qu'on pense tout de suite, dès le départ, à nous expliquer pourquoi la qualité d'image qu'on voit est mauvaise. Parce que, en réalité, on va donner la caméra très tôt dans le film à un individu, qui est Hud, qui lui ne sait pas filmer, qui n'a jamais tenu une caméra dans ses mains. Et donc, c'est plus crédible de voir quelque chose qui bouge tout le temps, comme on le voit dans Cloverfield, que dans le film Blair Witch Project, où là, à ce moment-là, on avait affaire à un cinéaste professionnel qui étudiait dans le domaine du cinéma, puis qui n'a tout simplement pas pensé à amener un monopode avec lui dans le bois. L'autre point qui est extrêmement important, c'est de voir à quel point, lorsqu'on voit les séquences de catastrophes, que l'on puisse automatiquement faire le lien avec les événements tragiques du 11 septembre 2001 au moment de l'écrasement des deux tours. Donc, ce fameux nuage de poussière qui arrive dans la rue et que les gens sont obligés de se cacher dans les édifices pour éviter tout simplement d'être étouffés par la poussière qui est envoyée par l'écrasement des bâtiments, c'est quelque chose qui nous ramène à ça. D'ailleurs, ça démontre à quel point Cloverfield est inspiré par ces événements tragiques du 11 septembre qui ont frappé la ville de New York et à quel point qu'on a voulu recréer cette ambiance de panique tout en faisant en sorte que les gens étaient capables de s'identifier à ce qu'ils voyaient parce que tout de suite, on était capable de relier ça à cet événement. Du côté des faiblesses, bien écoutez, très simple, si vous avez mal au cœur facilement en regardant quelque chose qui brasse, bien faites-moi confiance. Au niveau de Cloverfield, ça n'arrête pas une seconde, à un point tel même que ça en devient frustrant parce qu'on n'est pas capable de voir ce qui se passe. Il y a des belles imageries qui auraient pu être là. Si ça avait été un film de monstres réalisé sans caméra à l'épaule, mais qu'on aurait pris le temps de le filmer, Cloverfield aurait probablement été un des bons, sinon l'un des meilleurs films américains de créatures monstrueuses à avoir vu le jour. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on n'est pas capable de voir la qualité des effets spéciaux, même que par moments, on les voit bien et c'est quand on a des moments où est-ce que la caméra est statique puis qu'elle ne bouge pas qu'on est capable d'apprécier le spectacle. Mais pour le reste du temps, c'est dommage parce qu'on perd cette qualité d'effets spéciaux-là qui mériterait beaucoup plus avec le travail qui a été mis là-dessus. Mais justement, si vous êtes quelqu'un qui avait mal au cœur facilement, faites-moi confiance, si vous pensez que vous avez eu des problèmes avec Blair Witch, Cloverfield est encore pire que ça. Au niveau du tournage, c'est également décousu. Il y a des coupures qui ne sont pas réalistes. À un moment donné, on a des dialogues qui sont importants. La caméra va couper là, à savoir, OK, c'est beau, on a mis un amateur derrière la caméra, mais je pense que l'amateur est capable quand même de filmer quelque chose qui est important parce qu'il est quand même, capable de voir que c'est important. Puis il passe son temps à dire, bien, il faut qu'on garde ça pour montrer aux gens ce qui s'est passé. Mais par moment, on a des coupures où est-ce qu'on se demande pourquoi que le gars a tout simplement arrêté la caméra à ce moment-là, alors que c'était des moments très importants. La créature de Cloverfield, tout comme les petits parasites qui se retrouvent sur son corps et qui vont tomber et s'attaquer à la population en général à New York, il ressemble énormément à Starship Troopers. Je pense qu'on aurait pu se forcer un petit peu plus pour essayer de trouver un type de créature plus réaliste puis essayer de ne pas imiter quelque chose qui a déjà été fait. L'autre point négatif, ben, c'est plate de regarder un film quand on sait que tout le monde dont on va suivre les exploits durant les 80 prochaines minutes, ben, ils sont déjà morts quand on commence le film. Donc, on sait déjà qu'il n'y a pas un personnage qui va s'en sortir. Ce qui est plate parce que ça nous empêche de nous attacher à ces personnages-là parce qu'on sait déjà comment ça va se terminer. Donc, ça aussi, c'est un point qui est peut-être négatif. Cependant, un point positif, la mise en scène de Matt Reeves est excellente et c'est ce qui va sauver d'un côté Cloverfield. Il y aura deux suites non officielles au film de Cloverfield. D'abord, en 2016, sortira le film 10 Cloverfield Lane, qui met en vedette Mary-Elizabeth Winstead et John Goodman. Et le second s'appellera The Cloverfield Paradox, qui sortira sur Netflix en 2018 et qui mettra en vedette Daniel Brühl, Elizabeth Debicki et Axel Henny. Du côté musical, eh bien, Cloverfield n'a aucune trame sonore instrumentale. La raison est fort simple, il n'y a aucune musique dans le film. Il n'y a qu'une composition qu'on va avoir pour les génériques de la fin du film, qui est composée par le musicien Michael Giacchino, qui s'appelle Roar, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Dans ce thème, le compositeur a rendu quelques hommages, notamment à Akira Ifukubi, celui qui avait écrit la musique de Godzilla. Donc, quand même un beau petit bout musical que je vous laisse écouter à l'instant.
pure creamery butter, rich, flavorful, satisfying. That's what it takes for the finest buttered popcorn, and that's what we use. See for yourself why there's no Showtime treat to equal the crisp, delicious flavor of hot popcorn that's bathed in real melted butter. It's at the concession stand now.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
Becoming attraction.
And now, on with the show.
あれがゴジラか。
Dans la deuxième partie de notre programme double, nous allons parler maintenant de Shin Godzilla, ou si vous préférez, Godzilla Résurgence, un drame de science-fiction produit par les studios de la Toho qui sortira en salle le 25 juillet 2016. Ce film japonais d'une durée de 119 minutes a coûté plus de 15 millions de dollars à produire et ramassera plus de 155 millions de dollars au box-office international. Au niveau de la réalisation, il s'agit ici d'une co-réalisation, soit Hideaki Anno, ce réalisateur japonais qui nous avait donné Neon Genesis Evangelion, et son co-réalisateur Shinji Iguchi, qui avait réalisé les effets spéciaux de Godzilla 85 et de la dernière trilogie de Gamera, et qui avait également réalisé le film Sinking of Japan en 2006. Au niveau de la distribution, eh bien, on va juste nommer les trois acteurs ou actrices principales, Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi et Satomi Ishihara. Le film débute avec un raz-de-marée qui va tout simplement inonder une partie de la côte de Tokyo. Au début, on pense du côté du gouvernement que c'est une catastrophe nucléaire, sauf qu'à un moment donné, on va voir apparaître une créature gigantesque et monstrueuse, gélatineuse d'une certaine façon, qui va tout simplement sortir de l'océan et s'en aller sur la terre ferme et commencer à dévaster la ville de Tokyo. Face à ça, le gouvernement va prendre des procédures pour essayer d'évacuer la ville tout en prenant les actions pour combattre la créature et protéger ses habitants contre la dévastation qu'elle va commettre. Mais après avoir reçu l'assistance des Américains qui vont bombarder avec des missiles la créature, celle-ci va lancer une attaque foudroyante qui va non seulement détruire une partie de la ville de Tokyo, mais qui va également décimer une partie du gouvernement japonais qui va devoir à ce moment-là trouver des remplaçants et qui sera à ce moment-là confronté avec la dure réalité, c'est-à-dire est-ce qu'on doit envoyer des ogives nucléaires sur Tokyo pour détruire la créature une bonne fois pour toutes parce que cette créature-là risque non seulement de détruire Tokyo, mais par la suite qu'elle risque de s'attaquer à la population du reste de la planète, ou d'essayer d'arrêter la créature avec un plan que les scientifiques travaillant pour le nouveau gouvernement essaient de mettre au point. C'est en décembre 2014 que la Toho avait annoncé ses plans pour un nouveau film de Godzilla qui devait sortir en 2016. Il n'y avait pas eu de film de Godzilla au Japon depuis Godzilla Final Wars en 2004, là où on avait annoncé que Final Wars allait être le dernier film de la saga. Mais bien sûr, ça nous prend toujours les Américains pour ramener Godzilla. Ça avait déjà été fait en 1998 lorsque Roland Emmerich et Dean Devlin avaient réalisé leur Godzilla avec Matthew Broderick et Jean Reno. Ça avait forcé alors les Japonais à sortir Godzilla 2000 ou Godzilla Millennium. Eh bien, on refait le même coup ici, les Américains produisant Godzilla en 2014, donc forçant la venue d'un nouveau Godzilla du côté du Japon. Mais du côté de la Toho, on veut changer les choses et on veut essayer de faire un remake de la créature. Et ça va être le premier véritable remake de Godzilla depuis le premier film en 1954. Depuis sa création en 1954, tout ce qui avait été fait depuis, c'était uniquement des suites à l'original, que ce soit une suite directe ou encore on repartait une nouvelle ligne temporelle où à ce moment-là, on refaisait à nouveau une suite au Godzilla de 54 en oubliant ceux qui avaient été faits soit de 55 jusqu'en 74 ou encore ceux réalisés de 1984 jusqu'en 1995. Sans oublier, bien sûr, la dernière ligne temporelle qui était de 1999, soit Godzilla Millennium, jusqu'à Final Wars qui avait été distribué en 2004. Tantôt, je vous disais que le Shin Godzilla, lorsqu'on l'écoute, nous fait beaucoup penser à ce qu'on vit présentement avec le COVID-19. Pourquoi? Parce que Shin of Godzilla va surtout nous montrer les actions du gouvernement face aux actions de la créature. Donc, comment le gouvernement va réagir? Comment le gouvernement va chercher à protéger sa population? Les directives et les lois qui vont sortir de ce gouvernement-là nous font penser énormément à ce que nos propres gouvernements font avec l'histoire de la pandémie du COVID-19. Mais il est important de savoir que Shin Godzilla est directement inspiré de deux catastrophes. La première est une catastrophe naturelle, soit le tremblement de terre de 2011 de Tohoku, qui a été suivi bien sûr d'un tsunami, et également de cet accident nucléaire qui était survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011, qui a été le plus gros accident nucléaire depuis le désastre de Tchernobyl en 1986. Donc, basé sur ces deux événements-là, le scénario va commencer à être écrit et dès 2013, on va approcher le réalisateur Hideaki Anno pour réaliser le film. Sauf que Anno va refuser à ce moment-là, lui souffrant à nouveau de dépression suite à la production de Evangelion 3.0 You Can. Mais c'est finalement son ami, le co-réalisateur Shinji Higuchi, qui va le convaincre avec la Toho de pouvoir accepter le projet. Et même lorsqu'il va accepter en mars 2013, il lui manque une confiance et c'est la raison pour laquelle Higuchi va signer pour être co-réalisateur de cette production. Toho va annoncer à ce moment-là que le tournage va débuter à l'automne 2015 pour une sortie en salle durant l'été 2016. Au niveau de la production, eh bien, au début, les deux réalisateurs voulaient utiliser différentes techniques, soit celle du marionnettisme, soit celle de l'animatronics, et on voulait aussi utiliser les suits ainsi que les effets spéciaux digitales. Mais finalement, la Toho va prendre la décision d'aller entièrement en CGI, ce qui fait que le concepteur des effets spéciaux, Atsuki Sato, va embarquer dans la production et qui considère que ça a été une bonne décision puisque avec les changements qui vont être apportés par les deux réalisateurs en cours de production, ça va lui permettre de pouvoir travailler avec la créature beaucoup plus facilement que si ça avait été réalisé à l'aide d'un costume. Du côté des forces de Shin Godzilla, eh bien, d'abord, très important, les effets spéciaux du film. C'est probablement ce qui démarque Shin Godzilla de toutes les œuvres précédentes qui ont été réalisées sur le monstre japonais, puisque pour la première fois depuis sa création, il va être entièrement fait en numérique. Je parle bien sûr ici du côté japonais et non pas du côté américain. Le film va démarrer à une vitesse extrêmement agressive, ce qui nous donne un premier 15 à 20 minutes extrêmement prometteur, un point tel que même si au début on considère que la créature a l'air loufoque, on est captivé par ce qui se passe à l'écran parce que justement l'intensité dramatique et le rythme est très bien conservé. Les scènes de destruction sont extrêmement impressionnantes, tant au niveau visuel qu'au niveau musical, ce qui amène un impact dramatique vraiment incroyable. Shin Godzilla est rempli d'une multitude de bonnes idées, mais c'est là qu'arrivent nos problèmes au niveau du film, parce que d'avoir d'excellentes idées, ça marche quand on est capable de les démontrer avec facilité. Sauf que quand le film devient redondant et qu'on passe son temps à nous ramener toujours les mêmes idéologies, ça fait en sorte que le film perd tranquillement notre intérêt et on tombe dans une espèce de mouvement de lenteur et de longueur qui fait qu'on perd un rythme incroyable et à un point tel que même la fin, qui aurait pu être beaucoup mieux que ça, semble garrocher parce qu'on a créé une créature beaucoup trop puissante et le plan qu'on a à la fin pour se débarrasser de la créature, c'est quasiment de mettre le monstre dans un état comateux et s'assurer qu'il ne puisse pas bouger pour par la suite pouvoir se débarrasser de lui, ce qui est totalement incohérent avec ce qu'on a vu depuis le début du film. Des dialogues confus, une multitude de personnages inutiles. Il y a trop de sous-histoires à travers le scénario. Donc, au début, on va dans un sens, une ligne directrice pendant les 15-20 premières minutes qui nous donne cette impression qu'on va assister à un film extraordinaire. Mais soudainement, on commence à s'en aller avec plein d'autres directions à gauche et à droite, à un point tel qu'on va parler d'aspects politiques, on va parler d'aspects militaires, on va parler de ci, on va parler de ça, à un point tel qu'à un moment donné, on vient qu'à être confus. On a des dialogues qui amènent absolument à rien et on amène même à un certain point un aspect ridicule au niveau du gouvernement de dire que le gouvernement est tellement gros qu'il ne peut plus porter des décisions rapides pour pouvoir régler la situation rapidement. Quand on le fait une fois, ça va, on a compris le message. La première fois, c'est bien véhiculé, ça va très bien. Mais quand ça fait 4 ou 5 fois qu'on le répète en dedans de 15 minutes, je pense que là, à un moment donné, c'est peut-être là le gros défaut de Shin Godzilla. On ne sait pas quand arrêter pour nous diffuser de quoi. C'est comme si on pensait qu'on n'était pas capable de comprendre ce qui se passe et qu'il fallait nous le remettre devant le visage. L'autre chose aussi que je trouve dommage, c'est de voir que tout le long du film, les Japonais sont comme des victimes. Le ministre est une victime. On est là puis on dit « c'est désolé, mais c'est toi qui dois prendre la décision. Nous, on ne peut pas t'aider avec ça. » Alors, prends la décision, puis nous, on va gérer le reste par la suite. Je vois pas la raison pour laquelle on doit considérer cette personne-là comme une victime. Et même le Japon est une victime. La Russie va décider pour elle, les Américains vont décider pour eux, jusqu'au moment où, là, les Japonais vont dire « Savez-vous quoi? On va s'en occuper nous-mêmes du problème, puis on va devenir des adultes, on sera plus des bambins. » Et c'est l'impression que ça donne, et c'est dommage parce que c'est quelque chose que je considère être très inutile. On aurait pu tout simplement voir les Japonais recevoir l'aide des Russes et l'aide des Américains pour essayer d'arrêter la créature, sans nécessairement qu'ils démontrent que le Japon est obligé de suivre ce que les Américains et les Russes veulent, mais qu'ils peuvent travailler en équipe pour trouver une solution au problème. J'aurais préféré voir un film où les trois pays se seraient entendus pour trouver un plan pour arrêter Godzilla qu'un pays où est-ce que là, les Américains et les Russes sont des vilains garnements puis qui essayent de contrôler le Japon et que là, le Japon va se mettre debout et va dire « on va créer notre indépendance puis on va vous montrer qu'on est capable nous autres aussi ». La séquence finale nous laisse également sur notre fin, alors que tout le long du film, on a des séquences de destruction et des séquences d'action de première qualité. On arrive avec une finale où est-ce qu'on couche Godzilla à terre, puis on comprend pas pourquoi celui-ci bouge pas. Et là, on peut lui insérer une espèce de liquide qui va faire en sorte que quand il va se relever pour s'attaquer au monde à nouveau, bien, il va se mettre à geler sur place. Et donc, très décevant comme conclusion, surtout quand on voit que le film nous avait amené quelque chose de visuellement époustouflant. Et ça, c'est peut-être aussi l'autre défaut du film, c'est que ça aurait été probablement un très bon film de monstre si ça n'avait pas été un Godzilla. Au niveau musical, c'est Shiro Sagisu qui nous avait donné, bien sûr, les trames sonores du film Neon Genesis Evangelion et Attack on Titan, le film avec de vrais personnages, qui nous donne ici une très bonne trame sonore de film. Une trame sonore qui va non seulement prendre des bouts qu'il avait réalisés pour Neon Genesis Evangelion, mais qui va également rendre hommage au compositeur Akira Ifukubi, qui avait donné plusieurs trames sonores précédentes des films de la saga de Godzilla. des cotes artistiques du côté de Cloverfield, Mediafilm cote le film 4. Moi, je lui donne une cote de 5, principalement à cause de la caméra qui bouge tout le temps et qui nous empêche de pouvoir savourer le spectacle et nous rend plus malade qu'autre chose. À croire que l'objectif du film était justement de nous dégoûter de voir le produit à l'écran. Par chance, c'est une mode qui a maintenant disparu. Donc, on a la chance maintenant de pouvoir réécouter des bons films avec un visuel qui a du bon sens. Mais il y a cette période entre Blair Witch Project et même encore il y a quelques années où est-ce que les caméras à l'épaule et les caméras de reportage, c'était pénible à regarder. Du côté de Shin Godzilla, bien du côté de Mediafilm, on n'a pas vraiment encore de cote. Moi, personnellement, je le cote 6. Raison, comme je disais tantôt, très répétitif. Des dialogues qui sont quelque peu confus. Une mise en scène quelque peu confus, malgré le fait que le visuel est époustouflant. Tout comme Cloverfield au niveau des effets spéciaux. N'empêche que ça prend plus que ça pour considérer que ces films-là avaient une meilleure qualité au niveau de leur cote artistique. Du côté de l'âge et du contenu de Cloverfield, eh bien, Mediafilm donne une cote 13 ans indicatif. Moi également, j'y vais avec une cote 14 ans à cause de certaines scènes de violence, notamment l'infection qui arrive aux humains et les réactions des humains face à cette infection-là, et également les attaques de ces espèces de parasites qui vont s'attaquer à la population directement dans Manhattan. Du côté de Shin Godzilla, bien, à ce moment-là, du côté de Mediafilm, on y va avec un G pour général. Moi également, j'y vais avec un pour tous. Il y a quelques séquences de violence, mais rien pour pouvoir faire peur à un jeune enfant. Donc, c'est le genre de film qu'on peut écouter. Il y a peut-être le Godzilla qui est un petit peu amusant au début. D'ailleurs, les enfants vont probablement rire de sa baboune, puisqu'il y a de l'air d'une poupée en caoutchouc qui se promène de gauche à droite. Mais enfin, c'est à vous de vous amuser avec ce produit. Au niveau de la disponibilité dans le format DVD, Blu-ray et 4K, bien Cloverfield est présentement disponible en Blu-ray et en DVD. D'ailleurs, il y a une édition des trois films de Cloverfield, incluant bien sûr 10 Cloverfield Lane et The Cloverfield Paradox. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Du côté de Shin Godzilla, eh bien, le film est actuellement disponible en DVD et en Blu-ray disc. Malheureusement, seules les versions anglaises et les versions japonaises sont disponibles sur ces versions. Donc, il n'y a pas de version française encore, mais je suppose qu'à un moment donné, c'est quelque chose dont on va pouvoir bénéficier. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intéresser intitulé Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Symbols, we're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.